J'aurais dû prendre une coupe de champagne. J'en prendrai une après. C'est gentil, merci. Vous avez raison, pendant qu'on l'attend, vous prenez toutes les photos que vous voulez. Alors, très bien, monsieur me suggère de faire question-réponse avec vous, tant qu'Hubert n'est pas là. Oui, chère madame. Alors, Hubert, vous avez raison, c'est une bonne question. Hubert, c'est Hubert Artus, qui est un très très bon journaliste littéraire et qui est la personne qui va m'interroger. Donc, il est vraiment spécialiste pour interroger les écrivains. Il l'a déjà fait ici à Brive et c'est toujours très très intéressant. Cela dit, vos questions à vous sont très intéressantes aussi, donc on n'est pas forcé d'attendre Hubert. Ah, Hubert! Et du coup, il part. Mais oui. Cela dit, ça doit être très difficile d'être Hubert aujourd'hui, parce que pensez au nombre d'écrivains qu'il doit interroger. Il ne faut pas qu'il en mêle ses fiches, quoi. J'étais en train de vous présenter au public, Hubert. Là, vous êtes... Bravo.
Merci. Et mille pardons pour le retard, mais le contexte sanitaire fait que sur la Foire de Vie 2021, les lieux où nous, les modératrices et les modérateurs, on intervient, ils sont assez écartés. Et c'est un jour de marché dans votre belle ville, donc il faut encore plus, il y a encore plus de gens... voilà, donc du coup, je suis confus pour le retard. Je vois que vous avez fait une nouvelle fois connaissance. Je dis une nouvelle fois parce que vous êtes, et c'est heureux, Amélie Nothomb, un des personnages récurrents de la foire, donc vous venez tous les ans.
Tous les ans, sauf
tous les
l'an
ans
passé.
La foire a lieu.
Et l'an passé, c'était, c'est ce que j'expliquais à mes amis de Brive, l'an passé, c'était vraiment abominable. Déjà que l'année en soi était horrible, mais en plus, cerise sur l'absence de gâteau, pas de Brive.
Faut pouvoir le dire, ça faut savoir le dire. Cerise sur l'absence de gâteau. alors donc, c'est la combientième fois que vous venez? Parce que vous êtes venu à chaque fois depuis
C'est donc, si on en enlève un, c'est donc mon 28e Brive.
28e?
Oui.
Et c'est pas tout le monde qui peut dire ça. C'est pas tout le monde qui peut dire ça. Et je crois même qu'une fois, vous avez été la présidente ou la marraine, comme on dit.
Ah, non, je ne l'ai jamais accepté. Parce que j'avais l'impression que si on acceptait d'être présidente, on devait passer plus de temps avec les officiels. Bon, avec tout le respect que j'ai pour les officiels, je ne viens pas à Brive pour les officiels. Je viens à Brive pour vous.
Et vous venez cette année en plus dans la peau d'une, encore plus d'une winneuse, puisque nous sommes le 6 novembre, si je sais compter, il y a 3 jours, le 3 novembre. La Saint-Hubert vous a porté chance.
La Saint-Hubert m'a porté chance, absolument.
Puisque vous avez été décoré du prix Renaudot ce jour-là. Donc, c'est encore plus dans cette peau de winneuse que vous venez. Pour un livre que vous avez soit lu, soit que vous allez lire, soit en tout cas, vous savez de quoi il retourne. Alors, la légende veut que c'est votre 30e livre publié en 30 ans.
C'est mon 30e livre publié en 29 ans, donc une année, bon, bref. Mais c'est le 100e écrit.
Alors, c'était là-dessus que je voulais commencer, parce que une telle disproportion entre ceux qui ont été écrits et ceux qui ont été publiés, ça interroge, d'autant plus que Premier Sang porte donc, comme on le sait, sur la figure paternelle. On sait, hein, puisque c'est écrit et ça a été dit, que le déclic sur ce livre-là, si j'ai bien compris, c'était aussi malheureusement la disparition de votre père,
de
des circonstances encore plus pathogènes, puisque c'était le début du premier confinement. Dans le monde. Donc il y a toutes les personnes qui malheureusement sont décédées et celles qui se sont vues confrontées à cette absence-là, bah, sont confrontées à l'impossibilité de rendre la célébration comme elles le voulaient. En l'occurrence, il n'y a pas eu de célébration le plus souvent. Et on est forcément intrigué par la disproportion. Donc sans, en gros, ouvrage écrit, ce qui veut dire, si on y en a 30 publiés, 70 qui sont quelque part dans le monde. Et ce qui est intriguant, vu la force avec laquelle vous rendez hommage, vous faites graphie de la vie de votre père et de ses événements et la façon avec laquelle vous mettez dans sa peau, on se dit quand même, c'est quand même complètement fou et donc pas forcément vrai, qu'aucun des 70 autres n'ait concerné votre père, même si du coup, ils auraient été écrits de son vivant.
Oui, non, je n'avais absolument jamais écrit sur mon père et je n'y aurais absolument jamais songé. C'est tout à fait idiot, mais il a fallu qu'il meure pour que je m'aperçoive qu'il était un extraordinaire personnage de roman. Et ce n'est même pas pour ça que j'ai écrit ce livre. J'ai écrit ce livre parce que j'étais face à un deuil impossible, puisque mon père donc, est mort au premier jour du confinement. Je n'ai pas pu... il n'y a pas eu de cérémonie, je n'ai pas pu aller sur sa tombe avant longtemps, et ça a rendu mon deuil absolument impossible. 6 mois après sa mort, face à ma souffrance grandissante et à l'impossibilité d'accomplir ce deuil, je me suis dit qu'il n'y avait qu'une seule possibilité, c'était que je lui rende la vie par mon livre pour que je puisse enfin lui dire au revoir. Et je me suis demandé par quelle manière radicale je pouvais réellement le ressusciter dans mon livre. C'est là que j'ai pensé à la première personne du singulier. Je me suis dit, après tout, tu es sa fille, tu es celle de ses enfants qui lui ressemblent, ça te donne une certaine légitimité. Donne ta voix à ton père, deviens ton père, qu'il puisse s'exprimer à travers toi. J'ai donc fait ce livre à la première personne du singulier, c'est mon père qui parle. Et Yourcenar disait, Yourcenar a parfois usé de procédés comparables en disant, par exemple dans Mémoire d'Adrien, rassurez-vous, je ne me compare pas à Marguerite Yourcenar, mais son idée elle, était la même, en faisant parler un personnage à la première personne du singulier, elle disait qu'elle faisait le portrait d'une voix. Et c'est ça que je fais ici dans ce livre, c'est le portrait de la voix de mon père. Et ce qui me fait terriblement plaisir, c'est que visiblement, ça a marché, parce que tous ceux qui ont connu mon père m'ont tous dit « Bien, on a tout à fait reconnu la voix de votre père ». Et ceux qui ne connaissaient pas mon père ont découvert la voix de mon père, qui avait de fait qui était un personnage singulier et qui avait réellement une voix exceptionnelle. Alors pour moi, quoi de plus émouvant ? Je veux dire, quand on perd quelqu'un, quel devient le médium pour le retrouver ? Bon, il y a les photos, c'est pas mal les photos. Mais ce n'est pas grand-chose en même temps. Tandis que retrouver la voix de la personne disparue, ça, c'est absolument énorme. Et voilà pourquoi ce livre est pour moi tellement important. J'ai vraiment eu la sensation de ressusciter mon père. Et ça a été la fin d'un déchirement quand j'ai eu fini de l'écrire, que je l'ai apporté aux éditions Albin Michel, parce que ça, je suis sûre que pour mon père, ça aurait été très important aussi. Que je rende cette parole, le portrait de sa voix officielle, que je la porte dans l'institution littéraire, ça aurait énormément compté pour lui. Donc, à partir du moment où le livre a été accepté par les éditions Albin Michel, mon père, qui, depuis sa mort, ne cessait de me parler dans ma tête, il a cessé de me parler. Mais de la meilleure façon qui soit, c'était pas du tout par bouderie, c'était, quelque part, c'était pas normal. Ce père qui ne cesse de parler à sa fille alors qu'il est disparu. je m'inquiétais aussi pour lui en me disant, mais il n'est pas tout à fait bien mort, parce que sinon il ne me parlerait pas tant, il n'est pas en paix. Et j'ai eu vraiment l'impression que grâce à mon livre, il avait retrouvé la paix, puisque je ne l'entends plus.
Alors là, vous illustriez le défi donc, de vouloir évoquer le père, de vouloir se mettre dans sa peau et dans sa tête. Alors, entre le vouloir, entre sentir que c'est un défi, c'est une chose. Déjà, il faut le relever. On est sur une certaine dimension. Mais le faire, le réaliser, arriver au bout de cette, de ce qui est à la fois, du coup, une quête dans tous les sens intellectuels et psychanalytiques, si je peux me permettre du terme, et arriver au bout en faisant que c'est universel, que ça nous cause, que c'est un objet qui tient debout en lui, un livre, une histoire, une composition textuelle qui tient debout en elle. Comment ça se passe ? Parce que, surtout, si tôt, si vous permettez, après la disparition.
Écoutez, ça a été une vraie question pour moi. Outre cette première personne du singulier, je me suis dit, comment faire, comment commencer ce livre ? Quel aspect de mon père vais-je faire renaître ? Bon, j'avais beaucoup plus envie de parler de mon père avant moi, le père que je n'ai pas connu, le père d'avant ma naissance. Par ailleurs, je n'aurais pas écrit ce livre s'il n'était pas mort, donc il fallait aussi que ce soit en rapport avec la mort. Je me suis demandé... quel était le premier rendez-vous que mon père avait eu avec la mort ? Et là, la réponse est arrivée tout de suite. Quand mon père avait 28 ans, il a été pris dans ce qui a été la plus grande prise d'otage du XXe siècle. C'était son premier poste de diplomate.
Et d'ailleurs, l'ouvrage commence dessus, sur cette
scène.
C'est ça.
Et au bout de 4 mois où il a été négociateur pour défendre la vie des 1600 otages blancs, mon père a été condamné au peloton d'exécution par les rebelles qui étaient les auteurs de cette prise d'otage. Voilà, il n'est pas donné à tout le monde non seulement d'avoir connu l'expérience du peloton d'exécution, mais encore moins d'y avoir réchappé. Parmi les autres cas à qui c'est arrivé, il y a Dostoïevski. Dostoïevski raconte son peloton d'exécution dans son œuvre. Et il décrit ça comme une espèce de vertige, de trip hallucinant. Il paraît que le temps se ralentit de façon absolument stupéfiante, que l'instant de la mort semble reculer à mesure qu'on s'en approche, qu'on est pris d'une espèce d'extase. Et je savais que mon père avait vécu cette expérience. Il a consacré un livre à son expérience d'otage. Ce livre, je l'ai lu 2 fois. Je l'ai une fois de son vivant, une fois après sa mort. Et je me suis rendu compte que ce qu'il en disait était terriblement insatisfaisant. Non pas que cela manque de qualité, mais parce que, comme toujours au cours de sa vie, il n'y avait mis absolument aucun sentiment et aucune émotion. Mon père appartenait à ce milieu et à cette époque où exprimer ses sentiments, ça ne se fait pas. Non qu'il n'en ait pas éprouvé, il suffisait de le voir pour voir qu'il s'agissait d'un homme extrêmement émotif. Mais parce que, voilà, exprimer des sentiments, à plus forte raison, des sentiments négatifs, du désespoir, de la peur de mourir, de la souffrance, mais ça ne se fait pas. Donc, relisant son livre, relisant son expérience de peloton d'exécution, je me suis dit, mais papa, mais c'est pas possible, tu vas pas me faire croire que tu as vécu ça comme ça. Malheureusement, il était mort, je ne pouvais plus le prendre à bras le corps et le secouer en disant, mais vas-y, raconte-moi comment tu as vraiment vécu, dis-moi tes vraies émotions de peloton d'exécution. Et là, je me suis dit, puisque je ne peux plus lui poser la question, quand un mystère me résiste, je n'ai jamais trouvé qu'une seule solution, l'écrire. L'écriture est un tel moyen d'investigation que quand on le pratique au degré d'intensité auquel j'aspire, je considère qu'on a la réponse aux questions. Bon, c'était terrible de commencer le livre par cette scène-là, mais vraiment, je m'y suis immergée. Je suis vraiment devenue mon père devant les 12 fusils. Et j'ai vu tout ça venir. J'ai vu venir toutes les émotions qu'il n'avait pas dites, et ça a été énorme. Bon, c'était une entrée en matière très, très violente. Par la suite, ben, il suffisait de dire les émotions d'un homme. Il paraît que quand on est sur le point de mourir, on voit redéfiler toute sa vie. Donc j'ai fait redéfiler tout ce qu'il avait vécu de sa naissance à ses 28 ans.
Et vous arrivez d'ailleurs, le livre, au niveau temporel, au niveau chronologique, le livre va se finir au moment où vous allez arriver sur Terre. C'est-à-dire que c'est quelque part la plus belle des manières qu'il peut y avoir justement de d'écrire et de rendre hommage et de rendre mémoire et de faire universalité de la figure du Père, c'est d'ailleurs dire tout ce que je pense qu'il a vécu et comment il a vécu avant moi, parce qu'avant moi, je l'ai vu, et bon, voilà, tout le monde peut écrire sur son père, les vacances avec son père, etc., etc. Savoir bien écrire, c'est autre chose, mais en tout cas, tout le monde peut envisager de le faire. Mais l'exercice de mémoire intellectuelle, il prend justement corps au moment où on se rend compte que, elle a quand même écrit l'Antiquité d'elle-même, quelque part. Sans
c'est vous, ça. C'est,
mais c'est ça, au niveau mémoriel, c'est ça.
Et en fait, je ne le savais pas, parce que il a vraiment fallu que j'écrive ce livre pour que je comprenne que c'était de cette expérience d'otage, de négociateur pendant 4 mois. Il faut bien vous dire que pendant 4 mois, tous les jours, tous les matins, les rebelles arrivaient avec leur kalachnikov et prenaient les otages en joue et disaient « Nous allons tous vous tuer ». Et tous les matins, mon père, consul de Belgique, disait « Oui, très bien, mais auparavant, nous allons parler ». Et tous les matins, il relançait la palabre, vous savez, cet extraordinaire exercice d'éloquence africaine, histoire de retarder le moment où les rebelles allaient tirer sur les otages. Mon père a sauvé la vie de malheureusement, pas des 1600 otages, parce qu'il y a quand même 100 qui ont été tués. Il a sauvé la vie de 1500 otages, rien qu'en parlant. Il était seul, il n'avait comme arme, il n'avait que la parole, et rien que par la palabre, l'exercice de la palabre, il a sauvé la vie de 1500 personnes. Ça s'est terminé par ce peloton d'exécution. Et je n'avais absolument pas pris conscience, il a fallu que j'écrive ce livre, je n'avais pas pris conscience que c'était de cette épreuve incroyable qu'était né le désir chez mon père d'avoir un troisième enfant. Mon père avait déjà 2 enfants, un garçon et une fille, chacun parfait dans sa catégorie. Il n'avait aucune raison de mettre un troisième enfant au monde. Mais voilà, il a survécu à l'indicible. Et dans cette espèce de rage de survivant, il a eu un tel surcroît de vie qu'il a éprouvé le besoin d'en faire quelque chose. Et voilà, le désir qu'il a eu à ce moment-là, c'était d'en faire un troisième enfant. Et c'est ce qui explique que je suis devant vous aujourd'hui.
Alors, est-ce qu'il y a des moments de votre antiquité, donc de sa vie, que vous avez eu du mal à écrire, justement, parce que donc il y a cette scène inaugurale du livre, on l'évoquait, lui devant le peloton, on va lui voir revivre le début de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs autres scènes, l'arrivée de vos frères et sœurs, mais est-ce qu'il y a des moments, des photos de sa vie, des images, des moments que la femme, la citoyenne, la fille que vous êtes là aujourd'hui en 2020, quand vous avez commencé à écrire ce livre, avait eu du mal à envisager et que, je ne sais pas comment ça s'écrit à la première personne.
Alors, il y avait des moments, je vais vous dire ce qui a été le plus difficile. Bon, je pense que je connaissais quand même assez bien la vie de mon père. Non qu'il en ait beaucoup parlé, c'était un homme extrêmement pudique, qui ne parlait absolument jamais de lui. Mais c'est un homme qui m'a énormément fascinée de son vivant et que j'ai beaucoup observé. J'ai beaucoup interrogé sa famille et son entourage parce que justement, je me demandais qui il était, quoi. Et j'ai pu faire des recoupements, tout ça de son vivant. J'ai eu beaucoup de témoignages sur lui enfant, sur lui jeune adulte. Donc ça a été ma matière première. Je vais vous dire ce qui a été le plus difficile. Bon, c'est très gênant à dire. Mais je pense qu'il n'y a pas de notombe parmi vous. Bon, vous allez comprendre pourquoi c'était très difficile. Le plus difficile, ça a été de faire taire certains de mes sentiments pour respecter les siens. Dans ce livre, il y a un personnage qui est la figure de mon arrière-grand-père, donc le grand-père de mon père, qui a joué un grand rôle dans sa vie, qui est un personnage que je n'ai pas connu et que personnellement, bon, vous me direz, je ne l'ai pas connu. Mais j'ai entendu parler de lui. Ce personnage, je le déteste. Et je sais que mon père l'aimait très profondément. je devais respecter sa parole, je devais respecter l'amour que mon père avait pour ce grand-père, alors que moi, je le déteste. Du coup, j'ai eu vraiment... ça a été très difficile pour moi de respecter, de rendre crédible l'amour absolu que mon père avait pour son grand-père, alors que moi, pour moi, cet homme m'inspire, mais vraiment du mépris. Et j'y ai réussi. Je me suis dit, il faut que tu le vois à travers les yeux de ton père. Ton père était ce petit garçon aimant et tout pur qui a vu un homme sans mesurer ce que cet homme pouvait avoir de discutable et qu'il a aimé très profondément. Voilà, ça a été la chose la plus difficile. Donc, faire taire mes sentiments pour respecter les sentiments de mon père.
Comment est-ce que vous avez choisi, sélectionné, délimité les séquences, les moments, les images que vous alliez écrire ?
J'ai choisi d'écrire ce qui m'avait le plus ému chez mon père, ce que j'avais le plus senti de douloureux. Mon père est né, pour ainsi dire, orphelin, puisque son père militaire est mort dans un accident militaire, même pas à la guerre. Un accident absolument ridicule. C'était donc le père de mon père. Il faisait un exercice de déminage et ce jour-là, par erreur, l'armée avait mis une vraie bombe, une vraie mine à la place de la fausse mine. Donc, en faisant l'exercice de déminage, le père de mon père a explosé. Et mon père venait de naître et il s'est retrouvé tout de suite orphelin. Et sa mère a été tellement brisée de chagrin par cet épisode qu'elle ne s'en est tout simplement jamais remise et n'a jamais été capable de donner d'amour à son fils, tellement ce qui l'emportait chez elle était la douleur du veuvage. Donc mon père, petit garçon, est né non seulement sans père, mais avec une mère qui était comme une morte vivante, tellement elle était malheureuse et brisée. Et j'ai toujours senti que mon père adorait sa mère, et qu'il était en manque d'affection maternelle profond. Donc ça, je me suis appliquée à le faire sentir, d'autant plus que j'ai toujours vu chez mes parents, il y a toujours eu un portrait de mon père enfant, un portrait, une peinture de mon père enfant dans les bras de sa mère. Tableau extrêmement troublant. On voit mon père, tout petit garçon, très élégant, ressemblant un peu à une petite fille, dans les bras d'une femme magnifique qui regarde le peintre avec énormément d'amour et on sent un très grand malentendu dans ce tableau parce qu'on sent que mon père est petit garçon fou de bonheur parce que pour une fois sa mère le prend dans ses bras et a un air tellement aimant et en fait cet amour ne s'adresse pas à lui. C'est ma grand-mère qui pourtant était une veuve irréprochable d'être peinte par un grand peintre belge qui était une célébrité de son temps a été très flattée et a eu un regard d'amour pour ce peintre tout le temps qu'a duré la séance de pause. Et mon père a cru que cet amour s'adressait à lui. Donc ce tableau m'a toujours bouleversée. Ce que je vous dis là, ce n'est pas une chose qu'on m'a dite, c'est vraiment une chose que j'ai sentie en regardant ce tableau. Parce que mon père avait tous les symptômes d'une personne qui n'a pas reçu d'affection de sa mère, alors que sur le tableau, on a une impression d'amour qui est en fait un leurre. Donc je me suis, ça c'est un épisode très important qui le temps de pause du tableau et le malentendu que ça a fait naître. Autre chose très importante, la découverte par mon père de la famille Nothomb. Donc mon père, pour ainsi dire orphelin, a été éduqué par ses grands-parents maternels et était en train de devenir une petite fille. Seul petit garçon dans un milieu trop protégé, le grand-père maternel s'aperçoit que ce petit garçon n'évolue pas comme il faudrait et décide de l'envoyer chez les Nothomb quand il a 6 ans, c'est-à-dire chez les sauvages. Les Nothomb étaient une famille aristocratique qui vivait dans un château des Ardennes belges et dans des circonstances absolument tragiques puisque l'arrière-grand-père Nothomb était ruiné et faisait vivre sa famille dans une extrême misère. Et en même temps, c'était vraiment à la guerre comme à la guerre. L'unique règle qui tenait lieu d'éducation chez les enfants notombes, c'était le darwinisme pur et simple. Par exemple, à table, on nourrissait les adultes et les enfants jusqu'à 16 ans. C'est... Débrouillez-vous, les gosses. Hein, s'il vous reste quelque chose à manger, vous vous débrouillez. Sinon, vous crevez de faim, ça n'a aucune importance. L'expression « crever de faim » n'a rien d'un abus de langage. Deux des enfants sont morts de faim. Aujourd'hui, c'est des choses qui paraissent tout simplement dingues. À l'époque, c'était parfaitement normal. Alors, je sais aussi qu'il y a... Je raconte des circonstances qui ont lieu de 1936 à 1950. On croirait que c'est le 19e siècle. Il y a un facteur de recul temporel qui est dû au fait que ça se passe dans les Ardennes belges. Je ne peux pas vous expliquer. C'est très arriéré. Et en plus, dans ce genre de famille... C'était du Dickens, véritablement du Dickens, et je n'exagère rien, les choses se sont passées exactement comme ça. Donc c'était très important pour moi de raconter comment mon père a rencontré sa famille, comment il a découvert la faim, le froid, la misère, mais la chose la plus incroyable est que de découvrir ce qui paraît en effet un roman de Dickens l'a exalté au plus haut degré. C'est là qu'on voit que mon père était un personnage d'une positivité tout à fait anormale. Je pense que sa vie a été si dure d'entrée de jeu qu'il a décidé de devenir une espèce de personnage ultra positif, qu'il a toujours été. Par exemple, les rarissimes fois qu'il parlait de son expérience d'otage que j'ai racontée tout à l'heure, il en parlait comme d'une merveilleuse plaisanterie. Mon père a toujours survécu aux pires épreuves de la vie, en les présentant comme quelque chose de merveilleux et surtout comme quelque chose de formidablement comique.
Ah bah tiens, justement, pour aller sur le grave, comique, léger, pas léger, il se trouve que votre avant-avant-dernier livre publié, Soif, en 2019, oui. Vous parliez, enfin, vous c'était aussi écrit à la première personne, dans la voix de, du Christ.
Oui.
Donc vous êtes quand même une écrivain qui s'est mis dans les peaux, dans la peau et dans les mots du Christ et de son père. Alors je ne vais pas amener ça sur un terrain psychanalytique ou autre, là, la science se prononcera, mais je voudrais placer ça sur un terrain intellectuel parce que je pense qu'on peut être léger avec beaucoup de choses, mais pas avec la figure du père, avec la figure du deuil, il ne faut pas. Donc place ça, si vous voulez bien, sur un terrain purement littéraire et intellectuel, et peut-être, on verra après, moral. Après, c'est des figures comme ça. Ce Christ sur lequel, et par lequel vous avez écrit, tout porte à croire que vous y croyez. Ou que vous êtes proche du domaine de la croyance ou de ces choses de la religion, non ?
Je n'ai pas pris les choses comme ça. Jésus a existé. Ça, c'est... Ce n'est pas une question de croyance, c'est un fait historique. Jésus a existé. Je ne sais absolument pas s'il est le fils de Dieu. Franchement, je ne suis pas plus avancée que n'importe qui sur cette question. La seule chose dont je suis sûre, c'est que c'était un type incroyable et qui m'a toujours fascinée. J'appartiens à une famille extrêmement catholique. On me l'a présenté comme un dieu. Je n'ai jamais eu de certitude sur cette question, mais j'ai toujours eu la certitude que c'était un type incroyable. Et il m'a obsédée, on peut dire qu'il m'a obsédée pendant 50 ans de ma vie avant que j'écrive ce livre. Je tire une certaine légitimité du fait que cet homme m'a obsédée pendant 50 ans de ma vie avec surtout cette question gravissime. Pourquoi accepte-t-il le supplice ? Il avait la possibilité de s'y dérober. Il accepte le supplice, il le revendique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment un type dont je crois qu'il était supérieur, je ne sais pas s'il était Dieu, mais je crois vraiment qu'il était, c'était vraiment quelqu'un. Pourquoi accepte-t-il ça et pourquoi présente-t-il ça dans sa version des faits comme un salut de l'humanité ? Comment est-il acceptable qu'un homme que je considère comme supérieur valorise la souffrance d'une manière indéfendable ? Et à côté de ça, tienne des discours en disant « aime ton prochain comme toi-même ». Quelle cohérence peut-on trouver entre cette parole « aime ton prochain comme toi-même » et à côté de ça, un tel mépris de soi qu'on accepte de se soumettre au supplice le plus innommable ? à ce moment-là, aime ton prochain comme toi-même devient une parole monstrueuse. J'y ai réellement réfléchi pendant 50 ans de ma vie. D'où le besoin d'écrire ce livre. Je le répète, quand un mystère me dépasse, je ne connais pas d'autre solution que de lui consacrer un roman. Un roman, mais extrême. Hein. Vous l'avez compris, soif, c'est pas ce que j'ai écrit de plus léger. Il peut m'arriver d'écrire des choses très légères. Soif, c'est pas léger. Je n'écris pas n'importe quel Jésus. J'écris Jésus sur la croix. C'est celui-là qui m'intéresse, parce que c'est celui que je ne comprends pas. Pour répondre à cette question, il m'a fallu écrire ce livre à la première personne du singulier. Le cas de mon père était très différent. J'ai entendu des gens dire, et c'est vrai que c'est psychanalytiquement troublant, « Bon, elle a fait le Père, elle a fait le Fils, quand est-ce qu'elle nous fait le Saint-Esprit ?»
Oui, c'est pour ça que j'ai verbalisé d'une manière
Je n'ai pas de réponse à cette question. Mais tout ce que je peux dire, c'est que il y a quelque chose de cohérent à ce que la première personne du singulier apparaisse dans ces deux cas-là. C'est mon père qui m'a parlé de Jésus au départ. Mon père était certainement un croyant. Moi, mon cas est beaucoup plus, n'est pas tranché.
D'accord.
Mais ça tombe bien que cette première personne apparaisse dans les deux cas.
En tout cas, sur un plan intellectuel et littéraire, justement, là, c'est à l'artiste, à la romancière que je m'adresse. Une fois qu'on s'est mis dans les gants, dans les mots, dans les images ou dans les destins de ces deux figures-là, a fortiori à la première personne, ce qui rehausse quand même sans cesse un peu les exigences. C'est un peu comme un ou une alpiniste, une fois qu'il a vaincu le Mont Blanc,
oui.
Après c'est l'Everest, on ne va pas aller sur un petit mont. Ou, c'est ça, une fois qu'on a vaincu la quatrième plus grosse montagne du monde, on va essayer de vaincre la troisième, puis la deuxième, puis la première, et puis il n'y a que deux ou trois alpinistes au monde qui ont fait les quatre. Après, ils n'ont pas su quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait après s'être mis littérairement, intellectuellement, peut-être moralement, dans des moments de la vie de son père et de ce Christ dont on croit à l'existence humaine, du moins? Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça change les existences? Comment on regarde les horizons? C'est ça que je cherchais à...
Je comprends très bien. Votre question a beaucoup de sens. Les chiffres parlent. Soif est le 93e roman que j'ai écrit. Premier 100 est le 100e roman que j'ai écrit. Je suis en train d'écrire le 103e, donc j'en ai écrit d'autres. Alors, en effet, quand on vient d'écrire ça, on s'est dit, bon, et maintenant je parle de quoi?
Bon. Et puis comment?
Oui, alors d'abord j'ai une règle absolue, et il n'est pas question pour moi d'y déroger. C'est qu'à l'instant où je termine un roman, je commence tout de suite le suivant, mais tout de suite. C'est une règle d'humilité.
Même premier 100?
Mais bien sûr. Il n'y a aucune dérogation possible. C'est une règle d'humilité terrible. Parce que parmi les dangers qui menacent l'écrivain, et les dangers qui menacent l'écrivain sont très nombreux, je crois que le pire danger qui menace l'écrivain, c'est de s'y croire. C'est de se dire, oh, voilà, ça y est, je l'ai fait. J'ai écrit Jésus à la première, j'ai écrit mon père. Surtout, ne jamais s'imaginer qu'on y est arrivé. Surtout. Et croyez-moi, si à la seconde où vous avez fini, au lieu d'aller déboucher une bouteille de champagne, on dit « Non, ma vieille, tu t'y recolles tout de suite. » Croyez-moi, c'est une école d'humilité pure et dure. Alors, je suis tout à fait consciente que ce que j'ai pu écrire dans l'intervalle n'était pas forcément de la même profondeur, mais ça aussi, c'est une école d'humilité de se dire qu'on n'habite pas toujours le même étage de soi-même. Et que parfois la légèreté est tout aussi importante que la profondeur. Voilà, toute vie humaine en témoigne. Nous avons des moments profonds dans notre vie et puis nous avons des moments futiles dans notre vie. Et tout ça fait partie de la vie et fait partie aussi de la vie d'écrivain. Donc j'essaye de respecter tout ce que je suis, de respecter aussi bien mon besoin de profondeur que mon besoin de légèreté. Je suis aussi une buveuse de champagne. Le champagne, à la fois, c'est très profond. Ça témoigne d'un art de vivre très profond. Les vignerons qui fabriquent le champagne sont des ascètes et de grands artistes. Et puis, tout ceci aboutit à un moment de légèreté, un moment de délice. Et peut-être qu'après, on va juste perdre la tête. Eh bien, tout cela est nécessaire à la vie.
Sur les 30 romans... Sur les 30 romans que nous on connaît, mais donc aussi les 70 que l'on ne connaît pas encore, ou que peut-être on connaîtra jamais, européen.
Qu'on ne connaîtra jamais.
Si vous le dites. qu'est-ce que... Alors, basons-nous sur les 30 officiels. Qu'est-ce que l'avant-dernier vous apprend toujours sur celui qui va venir, etc. Qu'est-ce que chacun vous apprend sur... à la fois vous-même, mais à la fois sur votre maîtrise, parce que de toute façon, voilà, ça, tout, si on se met à votre place, chaque roman est là aussi pour vous donner encore plus confiance en votre capacité d'envergure, d'approcher un personnage ou un autre, de savoir l'écrire, de savoir embrasser les défis, etc. Comment ça évolue roman par roman, cette confiance justement en votre plume, en vos sujets?
Alors, l'évolution de la confiance n'est pas très grande. Ce n'est certainement pas là que j'excelle. Là où je n'ai pas de confiance en moi, c'est-à-dire partout, je remplace ça par du courage. C'est-à-dire, je parlais des dangers qui guettent l'écrivain. Un des dangers qui me guette terriblement et que j'identifie à un très très grave manque de confiance, c'est les innombrables fois où, me relisant, je me dis mais qu'est-ce que tu fabriques, mais c'est juste, mais c'est tellement mauvais, mais c'est tellement nul, mais comment oses-tu? C'est la haine de soi. Je crois que ça c'est au quotidien, c'est ce qu'il y a de plus dur, écrire en affrontant une telle haine de soi, et une haine de soi qui, croyez-moi, se nourrit de tout, se nourrit aussi bien du succès que de l'insuccès, parce que quand ça marche formidablement bien, je suis dans un moment où ça marche formidablement bien, c'est une très grande joie, mais croyez-moi que l'ennemi intérieur y trouve un moyen de s'exprimer dans tout ça en disant mais regarde, mais quelle illusion, comme ils se trompent à ton sujet, ils vont le savoir un jour combien ils se trompent. Et les années où ça ne marche pas, parce que ces années-là aussi existent, bien évidemment, l'ennemi intérieur qui dit « Tu as vu, maintenant ils t'ont percé à jour, ils savent bien que tu n'es rien du tout, retourne chez toi, petite Belge. » Bon, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Mais le bon côté du fait que ça m'arrive depuis maintenant 35 ans, puisque ça ne fait que 29 ans que je suis publiée, mais ça fait 35 ans que j'écris, c'est que maintenant je sais que c'est comme ça. Et je sais que ça, non seulement ça ne progresse pas, mais ça empire. Donc maintenant je connais le terrain, je dis bon, ben c'est comme ça. Il y a cette disposition-là en toi, ça fait partie de tes dangers, ça fait partie de ta difficulté. Donc ce que je n'ai pas par la confiance, je l'ai par le courage. C'est ma vieille, tu t'en fous, la voix va parler, tu y vas quand même. Continue d'écrire, non que ce que tu écrives soit forcément formidable, non que ce soit forcément nécessaire, mais parce que, en fait, tu n'en sais rien. La voix était tout aussi terrible quand tu écrivais Soif, et tu ne peux pas douter quand même que Soif méritait d'être écrit. Donc, brave les insultes et vas-y quand même. C'est vraiment ça.
Ce qui veut dire aussi que chaque envie, chaque défi, chaque figure, chaque thème que vous voyez arriver comme ça, et dont vous vous sentez capable, vous en êtes vraiment capable. Quelles que soient les différences entre un conte par-ci, oui, un livre sur le crispal, un livre sur le père par-ci, un livre sur d'autres formes de mémoire, oui, par-ci, parce que vous avez écrit à la fois sur des histoires,
oui,
sur des thèmes,
oui,
et sur des personnes. Vous avez une œuvre qui est très
composite.
Très composite en
et,
cela.
Et j'ai conscience
chaque
que
défi, ça marche.
Écoutez, ça marche. Oui, ça existe. Les enfants sont nés. Je les appelle mes enfants. Ils sont nés. Ils ont au moins cet embryon d'existence-là. J'ai conscience que parfois, ce qui me met enceinte d'un livre, c'est une toute petite chose. Mais parfois, la toute petite chose est absolument nécessaire aussi. Voilà. Et la question qui me... Bon, autre question, qu'est-ce qui fait que je publie certains livres et que je n'en publie pas certains autres? C'est une question très personnelle, je choisis toujours ça toute seule, avec évidemment un énorme risque de me tromper. Eh bien, tout ça est nécessaire, y compris ce risque, et même quand ça a moins bien marché, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une raison de le faire. certains de mes livres qui ont pu paraître moins convaincants ou plus futiles, j'ai toujours trouvé au moins un lecteur ou au moins une lectrice pour me dire « ce livre-là, il m'a bouleversée ». Du moment que je trouve un lecteur pour me suivre, je me dis « c'est que je ne me suis pas trompée ». Cette chose qui m'a paru digne d'exister, elle devait exister puisqu'elle a touché au moins une personne.
Alors, parmi les livres non publiés, oui. Est-ce que, vous en direz ce que vous voudrez, hein,
oui.
Mais est-ce qu'il y a des thèmes qu'ensuite vous avez retravaillés dans un livre qui s'est trouvé, lui,
non,
publié ?
Jamais.
Donc un livre, un thème, vraiment.
Un livre,
vous.
Un thème. Bon, en même temps, c'est des thèmes très connexes. Hein. Je pense que je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont lu tous mes livres. Il y a quand même, même à travers les différences de profondeur, il y a des choses qui reviennent beaucoup. Hein. Il y a un certain air de famille. mais non, vous savez, ceux de mes livres que je ne publie pas, je ne les considère pas comme des échecs. Je pense qu'ils avaient besoin d'exister eux aussi, et je dois me conduire comme une bonne mère et voir ceux de mes enfants qui sont destinés à la lumière et voir ceux de mes enfants qui sont destinés à l'obscurité. L'obscurité, c'est pas du tout quelque chose de vilain. J'en reviens à Yourcenar. Yourcenar a un très beau livre qui s'appelle « Un homme obscur ». Qu'est-ce que c'est un homme obscur ? C'est simplement un homme qui a vécu en dehors de la lumière, en dehors du regard des autres. Ça ne fait pas du tout de lui un homme qui a un vilain destin. D'ailleurs, c'est un très beau livre, « Un homme obscur ». Donc je veux croire que ceux de mes livres que je ne publie pas et que je ne publierai jamais, car c'est déjà stipulé, réglé, arrangé, ont un très beau destin obscur.
Alors, on a vu de quelles obsessions, quels événements pouvaient naître un livre, avec soif, avec évidemment premier sang. De quoi naissent certains autres qui peuvent paraître soit plus futiles, soit plus sur le compte ? Alors, je pense à un livre qui s'appelle Tuer le père et qui pourtant n'a rien à voir avec le premier sang dont on a parlé, parce que c'est une histoire de dette, mais enfin au sens histoire du terme, il n'y a rien de psychanalytique là pour le coup.
Oui.
Comment se connaît ce jeu ? Je pense aussi à Acide sulfurique qui était une histoire qui est, pour ce qui me concerne, c'est pour ça que j'y pense, un de vos livres que j'ai préféré, sans que vous le preniez mal pour les autres, parce que c'était aussi à l'époque de la télé-réalité et que ça parle aussi quelque part de camps, d'enfermement et de télé-réalité, etc., ce livre-là. Comment naît ce genre de livres-là qui sont avant tout des histoires au niveau... Ce sont des fictions, ce ne sont pas des portraits,
ce sont des
et
fictions.
Qui semblent inspirés parfois par l'ère du temps. J'y pense en particulier à Acide sulfurique,
c'était au moment de la télé-réalité. En effet, Acide sulfurique, donc je l'ai écrit en 2004, il est paru en 2005. C'était en plein dans l'époque de la télé-réalité, qui évidemment m'offusquait, me scandalisait. Mais ce qui me scandalisait encore plus que la télé-réalité, c'était les spectateurs de télé-réalité. Je constatais un discours vraiment récurrent dans leur bouche. C'est « non, ça ne m'intéresse pas du tout, je trouve ça absolument nul, la télé-réalité, mais je la regarde parce que j'ai du plaisir à voir... jusqu'où ces gens peuvent tomber. » Et ce discours-là me rendait encore plus malade que l'existence de la télé-réalité qui pourtant me rendait déjà pas mal malade. Je veux dire, l'argument « parce que j'ai du plaisir à voir jusqu'où ces gens peuvent tomber », je me dis mais alors, il n'y a pas de limite. Mais alors, donc tout ça est basé sur le mépris. Quelle est la limite de ce mépris ? J'ai évidemment porté l'expérience jusqu'au bout en prenant le cas du camp de concentration. Et voilà le livre que ça a donné. C'est un livre qui a été très, très perturbant, non seulement à écrire, mais à publier. Il a provoqué un tollé médiatique. Je me suis fait liquider par les médias quand ce livre est paru. Pourtant, je ne regrette absolument pas de l'avoir publié. Bon, je n'ai pas eu l'impression que ça changeait quoi que ce soit à la moralité de la télé-réalité, mais quand même, c'était nécessaire de le dire. Pour parler de Tuer le père, qui est encore un livre extrêmement différent et pas du tout autobiographique, ça m'est venu d'autre chose. Les circonstances de ma vie ont fait que j'ai beaucoup fréquenté le milieu des magiciens. Et j'ai pu entendre les histoires qu'ils se racontent. Et parmi les histoires qu'ils se racontent, il y a eu quelque chose qui m'a fait penser... C'était une anecdote de cet ordre-là. un jeune magicien avait été amené à faire une fraude absolument colossale qui s'étalait sur énormément d'années. Et quand j'ai appris cette histoire, elle m'a tellement frappée que je me suis dit, mais voilà, c'est un argument terriblement littéraire, parce que quelque part, il y a des points communs entre l'illusionnisme et la littérature. Ce jeune homme a été capable d'une telle fraude rien que parce qu'il a pris le point de vue du lecteur, du spectateur en l'occurrence, puisque les magiciens comptent sur les spectateurs. Il a étalé une fraude sur 20 ans. Et ça a failli marcher. Bon, je ne peux pas la raconter, parce que c'est comme un tour de magie. Si on vous explique le truc, c'est plus intéressant. Lisez « Tuer le père », vous comprendrez.
Alors, comme ça, vous entendez, tout paraît bien rangé. Je vous parle d'un livre, vous sortez le truc. Ah oui, ça, je me rappelle très bien. C'est né comme ci, c'est né comme ça. Un peu comme, et d'ailleurs, vous en parlez comme de vos enfants. C'est un peu oui. Comme si vous disiez, ouais, cet enfant-là, tu m'en parles, Hubert. Bah oui, celui-là, il a fait sa sixième dans tel collège, cet autre-là. Hein. Vous m'en parlez exactement comme ça. Ça paraît très bien rangé, y compris pour les 70, dont apparemment, vous savez très bien que nous, on les lira jamais, etc. etc. Mais ça nécessite une discipline, une hygiène d'exercice, un peu comme un ou une athlète qui sait très bien que lui, il peut viser l'exploit que si vraiment il s'entraîne tant de fois par jour, à tel rythme, sur tel parcours, parce que ce parcours-là, je le connais par cœur, si je m'entraîne sur un autre parcours avec une autre atmosphère et un autre taux d'oxygène, etc., ça va foirer, j'aurai pas la médaille d'or. Est-ce que vraiment c'est normé que ça?
Ça
si
rigole pas.
Rangé, ça rigole pas.
Ça rigole pas. Là, vous voyez la partie marrante de ma vie. Aller à Brive et répondre aux questions d'Hubert Artus devant mes bons amis. Ça, c'est la partie marrante de ma vie. Boire du champagne, j'adore. Vu de l'extérieur, là, ça a l'air super cool. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est-à-dire mes matins, et chez moi, le matin commence très tôt, et je dirais même qu'il commence de plus en plus tôt. Ce matin, mon matin a commencé à 2h.
Là, à Brive.
Oui, ouais. Bon, là, l'heure que je ne dépasse jamais, c'est 4h. Je ne me lève jamais au-delà de 4h du matin. Ça, c'est indépassable. Mais comme avec les années, mon sommeil empire, là, ça ne cesse de reculer.
Empire, vous avez besoin de plus de sommeil ou
Non,
je
dors de moins en moins. Donc, 4 heures est en train de devenir 3 heures et 3 heures est en train de devenir 2 heures. Je ne sais même plus à quel fuseau horaire je vis. Et donc, ça suppose que on ne déroge absolument pas avec la règle. Même quand je me réveille malade, même quand je me réveille avec la gueule de bois, ce qui m'arrive, il n'existe aucune dérogation.
Ce qui veut dire que c'est votre liberté aussi.
C'est ma liberté.
Si à un moment de vos périodes, parce que les citoyens, les citoyennes que nous sommes, etc., bah, selon les histoires d'amour qu'on vit, selon les succès ou les insuccès qu'on vit, selon bref les périodes, quoi, parce que tout ne dépend pas de nous, de toute façon, il y a des fois notre liberté ou notre adaptation à cette liberté fait qu'on pourra se dire, bah, tiens, allez, je vais quand même essayer de m'entraîner autrement, puis ça se trouve, je l'aurai quand même, la médaille d'or. Je vais quand même peut-être avoir modifié mes heures de sommeil, et puis peut-être que j'arriverai quand même à écrire de bouquins. L'un ne sera pas publié, l'autre sera publié, etc. Comment vous envisagez ça? Est-ce que cette liberté-là, elle pourrait arriver? Est-ce que vous pourriez avoir une liberté qui fait que vous vivriez autrement de ce que vous disiez là, et que vous écririez quand même?
C'est pas possible, parce qu'au début, quand j'ai commencé à écrire à l'âge de 17 ans, j'ai cherché le mode d'emploi de la machine. La machine, c'est moi. J'ai essayé tous les modes d'emploi, tous les horaires, toutes les substances, tous les fonctionnements. Le seul qui fonctionne avec moi, c'est celui-là. Se réveiller beaucoup trop tôt. Boire à jeun un demi-litre de thé beaucoup trop fort. Ça tombe bien, de la substance est parfaitement légale. Donc, dans mon cas, mon fonctionnement est légal, c'est déjà ça. Et écrire pendant 4 heures sans interruption. Donc, j'ai essayé autrement. Je sais déjà que je suis déjà heureuse d'avoir trouvé un fonctionnement à cette pauvre machine qui, croyez-moi, n'est pas bonne à grand-chose. Donc, je ne vais certainement pas prendre le risque de chercher d'autres méthodes.
Ce qui veut dire que ce fonctionnement-là, cette horlogerie-là, elle marche pour tous les livres. Mais si à un moment, il y a un livre qui nécessite plus de temps, plus de voyages, donc plus de temps.
Si ça devait arriver, je ne m'y opposerais certainement pas. Le fait est que ça ne m'est jamais arrivé. Je tombe enceinte d'un certain profil de bébé. Voilà, je suis quelqu'un d'accueillant. Si tout à coup la créature qui voulait s'emparer de moi était une baleine, j'écrirais une baleine et du coup je serais enceinte plus longtemps et peut-être ce serait un très gros bébé. Pourquoi pas ? Mais je constate quand même que ça ne m'arrive pas.
Mais du coup, si je peux me permettre, il y a toujours plusieurs bébés en vous, parce que du coup, si nous on en lit un, on en voit un.
Oui.
Mais donc apparemment, si on est 30 publiés, 70 pas publiés, ça veut dire que quand même il y en a plusieurs par an. Maintenir cette
fécondité.
Mais j'ai l'impression qu'elle n'est vraiment pas qu'apparente, qu'elle est vraiment réelle, parce que, quitte à vous paraître naïf, je vous crois.
Oui.
Ça veut dire que chaque livre, chaque histoire qui est différente, elles peuvent quand même vivre ensemble et que
voilà,
ça vous paraît tout à fait vivable. Ça a pas l'air de vous déranger psychiquement plus que ça. Alors c'est pas évident quand même de vivre équilibré.
C'est très paniquant, mais c'est assez grisant. C'est vrai que j'ai tendance à tomber enceinte du livre suivant quand je n'ai pas fini d'accoucher du précédent. Voilà, c'est une habitude. Ma plus grande terreur, ce serait de ne plus être enceinte, mais ça ne se produit jamais.
Donc, ce qui veut dire que tout ça, à un moment, le système y est habitué, votre créativité y est habituée, votre façon de vivre y est. La façon dont l'artiste que vous êtes vit est comme ça, la citoyenne aussi, ça veut dire que votre rapport aux autres est aussi fait de ça. Ça veut dire que tout ça devient aussi un peu une drogue, ça veut dire que venir à Brive tous les ans, c'est une drogue.
Oui,
alors, complètement. Du coup, que vous n'avez pas eu l'an dernier.
Qu'est-ce que j'ai souffert.
Voilà. Et alors, quand le manque de Brive ou de quelque chose moins important que Brive, parce que c'est quand même Brive le plus important dans l'histoire, devient. Comment vous écrivez ? Puisque apparemment, vous écrivez quand même.
Ben, l'an passé, pendant Brive, j'écrivais Premier sang. Solution radicale à un problème radical. Voilà.
Et ben, ça, c'est...
Voilà une réponse.
Ça, c'est une sacrée réponse. qui est parfaite parce que je m'en étais aperçu et on me fait signe, je vous en remercie, que nous arrivons à la fin. Mais du coup, ça, c'est un vrai Z à un propos qui a même commencé par un A. C'est vraiment là, le nœud est bien fait, le soulier tient bien. Premier sang, donc, chez Albin Michel, tous les autres également chez Albin Michel et au livre de poche, je crois, en poche. On m'a dit au tout début que vous étiez disponible à dédicace juste dans la foulée. Hein,
oui, c'est ça.
C'est bien ça. Et vous êtes à la Foire du Livre jusqu'à
ce soir. Mais j'implore votre clémence parce que, bon, parmi les choses que j'adore à Brive, c'est le confit de canard. Et comme j'ai pas le temps d'aller déjeuner, mais il paraît qu'on va m'apporter à mon stand une assiette de confit de canard. Et sachez que je vais le manger. Donc voilà, j'implore votre patience parce que je dédicacerai entre deux bouchées de confit de canard.
Merci beaucoup en tout cas, Amélie Tombe. Merci à vous, mesdames, messieurs. Et merci également parce que... je m'excuse d'ailleurs encore de mon retard, mais si on fait, nous, les modérateurs et les modératrices des interviews qui tiennent debout, c'est aussi parce qu'on est bien accueillis par des gens qui sont super pros, c'est les gens qui nous accueillent, c'est les régisseurs, c'est toute cette équipe-là. Si ces personnes-là n'étaient pas là, eh ben nous, on ne pourrait pas faire un boulot, j'espère, aussi serein. C'est grâce à eux aussi qu'ils y sont pour quelque chose, donc merci. Et merci à vous. Merci.